Vous écoutez, on lit pour vous.
Olivia Ernoult, bipolaire. Il est urgent de sensibiliser et de déstigmatiser les troubles psychiques. Un texte de Guillemette de Préval paru le 6 juin 2025 dans Ombres et Lumières. Vivante avec une bipolarité depuis 20 ans, Olivia Ernoult s'est relevée après plusieurs hospitalisations traumatisantes. Alors que le collectif Santé mentale Grande cause nationale poursuit sa campagne en juin, Ombres et Lumières porte la voix d'une future mère. Éprouvée par les symptômes d'une spondylarthrite et d'un Parkinson précoce, cette paire aidante révèle qu'il n'y a pas de coup fatal. On purifie l'or dans le feu. Olivia Ernoult énonce cette phrase inspirée de la Bible avec calme depuis le salon de son appartement parisien ensoleillé. Poétique, le précepte reste un brin énigmatique. Mais lorsque l'on écoute le parcours de vie de cette trentenaire à la silhouette digne d'une gravure de mode, tout s'éclaire. À 17 ans, des premiers symptômes d'aléas d'humeur se font persistants. Les médecins la mettent sous antidépresseurs. « J'ai vite arrêté, je n'étais pas sereine », relate Olivia Ernoult. La vie étudiante l'appelle. Durant sa première année de licence en espagnol et anglais, à Paris, cette dernière, d'une famille nombreuse catholique, vit un mouvement de recherche spirituelle. Elle participe notamment à un pèlerinage étudiant à Chartres qui lui laisse comme un feu intérieur. Ce désir la pousse à vivre les Journées mondiales de la jeunesse, JMJ, de Cologne, en Allemagne, en 2005. Là-bas, j'ai expérimenté ce que la psychiatrie appelle un délire mystique, se remémore cette brune aux yeux d'un bleu lumineux. De retour en famille, à Antony, dans les Hauts-de-Seine, la crise se poursuit. Ses parents l'emmènent se faire hospitaliser. « Cet épisode a été très violent », se souvient-elle. « Mon entourage ne connaissait rien au monde de la psychiatrie. Ce premier séjour dure 5 semaines. » Rapidement, le terme de bipolarité est posé. « Certains diront que j'ai eu de la chance de le savoir aussi vite », avance la jeune femme, « mais j'ai été bardée de médicaments, constamment endormie et shootée. J'ai essayé de m'accrocher pour poursuivre mes études, mais j'ai fini par lâcher. » S'ensuivent des années à osciller entre traitements, phases de stabilisation et séjours à l'hôpital. Reconstruire son identité. En septembre 2022, Olivia découvre l'association La Maison Perchée, un lieu d'accueil à Paris pour les jeunes vivant avec des troubles psychiques. « Ce lieu est un miracle. J'ai toujours voulu que ça existe. Et il existe », se souvient-elle avoir pensé. Elle y devient bénévole en animant un groupe de parole sur la bipolarité. En parallèle, elle suit une formation pour devenir père aidant professionnel, délivrée à l'hôpital lyonnais du Vinatier, un établissement référence en psychiatrie. « Ce diplôme a été une étape importante dans la reconstruction de mon identité », mesure-t-elle. « J'ai appris à m'aimer avec mes failles et mes forces ». Sa rencontre avec Vincent, en 2023, donne l'élan supplémentaire. Un coup de foudre, mais qui n'aveugle pas, aime-t-elle décrire. J'ai eu peur de le perdre en révélant mon trouble. Olivia commence par lui dire qu'elle a fait une dépression. Puis, de petite pierre en petite pierre, j'ai fini par lui lâcher la grosse brique en lui racontant tout mon parcours, raconte-t-elle, amusée. Ce dévoilement par étapes n'a pas effrayé Vincent, devenu son mari en mars dernier. J'ai aimé sa façon de m'accompagner dans la compréhension de son trouble. Je suis admiratif de tout ce qu'Olivia a su traverser. Elle n'est jamais dans la révolte et appréhende ce qui lui arrive avec une force et une lucidité qui m'impressionnent. Et pourtant, l'été 2024 a été houleux, avec 2 crises suivies de 2 hospitalisations sous contrainte. Je n'étais pas violente, mais j'ai refusé de me mettre en pyjama d'hôpital. Je voulais garder mes habits par dignité, explique Olivia. L'équipe médicale ne m'a pas laissé le choix. On m'a attaché, puis administré une injection qui m'a rendu amorphe, incapable de parler et aveugle durant plusieurs heures. J'avais besoin de douceur. Je me suis retrouvé comme un animal en cage. Quand on sollicite la jeune femme sur sa vision de la psychiatrie, elle veut passer ce message. Il est urgent de sensibiliser et de déstigmatiser les troubles psychiques. Cela peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on vit avec ces maladies que l'on perd sa dignité et que l'on n'a pas un rôle à jouer dans la société. Dans l'espérance totale. Le plus difficile pour Vincent, ce sont les moments de souffrance de sa femme, causés notamment par la spondylarthrite, une inflammation chronique des articulations, diagnostiquée en 2018, et la maladie de Parkinson précoce, découverte il y a un an. « Je me sens alors impuissant à l'aider », reconnaît-il. Aujourd'hui, ce sont ces deux maladies qui handicapent davantage encore cette future mère. « Mon bras gauche est très difficile à mobiliser. Parfois, je n'arrive même pas à mettre un pull toute seule », déplore-t-elle. « Je découvre la perte d'autonomie au moment où un enfant va être dépendant de moi. » Le couple a demandé une prestation de compensation du handicap, PCH, parentalité, via la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Pour le reste, on trouvera toujours des solutions. On est dans l'espérance totale, philosophe celle qui a appris à vivre au jour le jour, portée par une foi vivante qu'elle partage avec son mari. Comment comprendre, malgré tout, cette accumulation d'épreuves? Olivia répond, l'âme tranquille, « Dieu ne veut pas que je souffre. C'est insensé, en soi, la souffrance, mais on peut y donner du sens. Je suis convaincu que Dieu veut que j'expérimente la joie vraie. J'ai eu des idées suicidaires durant de nombreuses années et j'ai vécu l'expérience d'un dégoût profond de la vie. Or, aujourd'hui, je porte la vie en moi. Malgré des croix phénoménalement lourdes à porter, je peux en témoigner. Je vis la vraie joie. Dans la noirceur, il y a toujours une pépite d'or à trouver. » C'était Olivia Ernoult, bipolaire. Il est urgent de sensibiliser et de déstigmatiser les troubles psychiques. Un texte de Guillemette de Préval paru le 6 juin 2025 dans Ombres et Lumières.
L'enfance n'est pas un fait divers, un texte de Céline Lamy, paru le 23 juin 2025 dans Le Devoir. Céline Lamy est l'instigatrice du collectif « L'enfance n'est pas une maladie » et pédopsychiatre. Elle a publié « Le drame des enfants parfaits » chez Atelier 10. Je comprends et partage l'émotion, l'effroi même, de l'histoire de cette fillette de 3 ans disparue pendant 3 jours et 3 nuits. J'ai vu sa photo, qui a été partagée partout. J'ai lu les publications sur les réseaux sociaux qui disaient combien cette histoire est tragique. Des gens qui s'émeuvent pour cette pauvre petite et qui s'indignent. Contre la mère. Cette mère-là. C'est vrai. C'est horrible. On est brassé en tant que parent. On pourrait juste penser « Comment a-t-elle pu ?» On pourrait verser facilement dans le jugement et se dire que c'est un fait divers qui ne nous serait pas arrivé à nous. Le fait divers est un fait insolite, inclassable dans les sujets habituels qui attirent l'attention du public par son côté sensationnel. À ce sujet, j'ai reçu en quelques heures 5 demandes d'entrevue radio et 1 demande de télé en direct pour parler de la petite disparue et maintenant retrouvée. Entrevue que j'ai toute refusée parce qu'on me demandait de parler de la maman. Qui peut juger de la santé mentale d'une personne sur quelques secondes d'un TikTok ou quelques mots écrits sur des réseaux sociaux? Oui, je sais, Certains font bien des diagnostics de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, sur formulaire, sans voir l'enfant, et d'autres, des analyses de personnalité sur des vidéos. Passons. De quoi nous parlent ces quelques secondes de vidéo, à part nous révéler une extrême détresse au sens large? On me demande aussi mon avis d'experte sur les séquelles ou les répercussions qu'aura tout cela sur cet enfant. Et c'est là que je m'indigne. Qu'est-ce qui fait que l'on contacte les experts pour ça? Je veux dire, comment justifier qu'on les contacte juste à ces moments-là, quand le drame s'est déjà joué? On ne nous contacte pas quand nous dénonçons chaque jour les problèmes systémiques graves qui mènent à des scénarios du pire comme celui-ci, ni quand on réclame des entrevues avec divers ministres en amont pour évoquer des problèmes structurels, ou quand nous parlons sans cesse de ce qui se joue dans le huis clos des familles non soutenues, dans les écoles, sur les réseaux sociaux, ni quand nous nommons le fait que la situation de l'enfance partout est inquiétante, insuffisamment considérée, réglée à coups d'enveloppes budgétaires ou d'annonces qui ne changent structurellement rien. On va en parler quelques jours, de la fillette disparue pendant 3 jours et 3 nuits. Et puis, ensuite, en guise de petit rappel, après le drame de la petite fille de Green Bay, on a cru que des changements allaient arriver, surtout après la commission Laurence sur la protection de la jeunesse. Pourtant, ce système n'a jamais été aussi en souffrance et en bris de fonctionnement que maintenant, et on ne compte plus les dossiers qui sortent régulièrement publiquement sur des situations graves. Pourquoi? Parce qu'on omet de penser de manière structurelle et systémique. On ne pose pas les bonnes questions. On ne va pas au fond des choses. On met en place des solutions sans voir la profondeur de la vérole qui gangrène les différents systèmes qui ont en charge les enfants, système de la santé, de l'éducation, de la protection de la jeunesse, de la famille. On multiplie les réunions d'urgence post-drame, et puis après. Ma mission n'est certainement pas d'aller sur 5 émissions radio ou télé pour parler de cette histoire dramatique ponctuellement. Elle est plutôt de dire, sinon de rabâcher encore et toujours, les inégalités systémiques, leur violence, de dénoncer l'individualisation des problèmes sociétaux et la façon dont le système pointe le cas, l'horrible individu, en oubliant que l'horreur est du côté du système. Nous vivons dans un système qui perpétue les violences en coupant, par exemple, dans les services de prévention ou en empêchant les parents de trouver de l'aide. Un système qui baisse les yeux et reste silencieux face à cette mère qu'il a peut-être croisée dans la rue, à garde, mais pour laquelle il n'interviendra pas. Je pense à tous ceux qui ont vu ou liké son TikTok, mais qui n'ont alerté personne. Je pense aussi à la façon dont on ne s'émeut de l'enfance que lorsqu'on est rendu aux faits divers, au partage compulsif de la photo de cette petite fille épuisée. C'est cela, notre société. Penser que cette histoire triste appartient à des individus précis, la petite et sa mère, que c'est de l'ordre de la santé mentale, du désordre individuel, de la mauvaise parentalité. Pourtant, la fillette de 3 ans est le symptôme d'une société tristement malade. Je le redis, une société qui s'émeut quelques jours, larmoyante, sur les réseaux sociaux et qui reprend le cours de sa vie sans que les questions de fond aient été posées réellement, est une société qui ne joue pas son rôle. S'émouvoir ne change rien si l'on s'émeut trop tard. C'est d'une indignation quotidienne que nous aurions besoin actuellement pour éviter justement de trouver normaux des fonctionnements institutionnels qui ne prennent pas réellement soin de la population, qui la réduisent à des chiffres et à des statistiques, à la gestion et au profit, qui perpétuent les inégalités et qui, par là même, ne peuvent qu'aboutir à d'autres drames. Pas des faits divers, non. Cette petite fille est comme tous les enfants victimes. Elle est le symbole de la faillite de nos systèmes à prendre soin des siens. L'enfance n'est pas un fait divers. C'était « L'enfance n'est pas un fait divers », un texte de Céline Lamy, paru le 23 juin 2025 dans Le Devoir.
La popularité des chalets ne se dément pas au Québec. Un texte d'Éric Desrosiers paru le 10 juin 2025 dans Le Devoir. Devenus des refuges rêvés durant la pandémie, les chalets et autres propriétés des marchés récréatifs n'ont pas perdu de leur attrait depuis. Bien au contraire. Le confinement, l'explosion du télétravail, les taux d'intérêt au plancher, les restrictions en matière de voyage, le rétrécissement de la liste des dépenses qu'on pouvait faire. La pandémie de COVID-19, il y a 5 ans, a offert une conjonction de facteurs particulièrement favorables à l'envie de se trouver un petit coin de paradis loin de la ville. Cela n'a pas manqué de se répercuter sur la demande de chalets et autres résidences des marchés récréatifs des Laurentides, de l'Estrie, de Charlevoix et de la Gaspésie. Passant d'une médiane pondérée de 213 700 $ en 2019 à 386 700 $ en 2022, le prix d'une maison unifamiliale y a bondi de 80 % selon le portrait du marché immobilier récréatif que la firme de courtage Royal Lepage dresse annuellement à partir des données recueillies dans 17 marchés régionaux et près de 200 communautés. Cet engouement ne s'est toutefois pas dégonflé une fois la crise sanitaire passée. Les prix devraient avoir augmenté de 18 % supplémentaires depuis 2022 pour atteindre une valeur médiane projetée de plus de 457 000 $ en 2025. On a pensé au début que tout cela n'allait être qu'une mode, qu'une fois la COVID passée, la demande et les prix allaient rebaisser. Mais ça ne s'est pas produit, observe Éric Léger, courtier immobilier chez Royal Lepage dans les Basses-Laurentides, qui est dans le métier depuis 44 ans. Internet. La vigueur du marché immobilier récréatif tient à plusieurs facteurs, selon lui. Les premiers auxquels il pense sont la révolution du télétravail et l'arrivée, après une longue attente, de services Internet enfin dignes de ce nom dans les régions. Des travailleurs en fin de parcours professionnel peuvent désormais envisager de s'offrir un peu plus de confort pour leur fin de carrière en partageant leur semaine entre la ville et une vie plus près de la nature. Ceux qui sont déjà propriétaires en ville y ont profité d'une hausse des prix immobiliers qui leur donne une marge de manœuvre financière pour acheter en région. Cette vie entre deux mondes se transforme souvent en déménagement permanent en région une fois arrivés à la retraite. Il y a aussi des jeunes qui font le choix d'acheter leur première maison loin de la ville, en forêt ou près d'un lac. Cela vient parfois avec une baisse de revenus. Mais c'est moins cher que dans les grandes villes et cela répond aussi à une autre vision de la vie et de l'équilibre entre le travail et tout le reste, observe Éric Léger. Comme il y a plus de gens qui font le choix de s'installer en région, de plus en plus de services y sont offerts. Quand nos enfants étaient jeunes et avaient besoin d'aller à l'hôpital, on descendait à Montréal. Mais ce n'est plus nécessaire de nos jours, dit le père dont les enfants sont aujourd'hui dans la trentaine. Ces phénomènes s'observent dans les tendances démographiques plus larges constatées dans les dernières années au Québec. Dans ses rapports sur les mouvements de population, l'Institut de la statistique du Québec montre en effet que les Québécois ont actuellement moins tendance à aller des régions vers les grandes villes que l'inverse. Et l'effet Trump? La guerre commerciale de Donald Trump et la perspective d'un ralentissement économique ne semblent pas, pour le moment, diminuer l'attrait du marché récréatif au Québec, disait à la fin du mois de mars 2025 Royal Lepage. Si les acheteurs étrangers y restent relativement rares, les frasques du président américain amèneront peut-être bientôt de plus en plus de Québécois à vendre leur maison en Floride pour se chercher quelque chose au Québec, dit Éric Léger. Quant à ceux qui voudraient acheter des chalets pour les louer ensuite à d'autres qui n'ont pas la chance d'en avoir, ils devront faire leur devoir, prévient le courtier. C'était courant auparavant, mais la réglementation des municipalités est de plus en plus sévère à cet égard. C'était « La popularité des chalets ne se dément pas au Québec », un texte d'Éric Desrosiers paru le 10 juin 2025 dans Le Devoir.
Marie Ouzeau, « Quand des récits changent des vies », un texte de R. Pratka, paru le 17 juin 2025 dans le magazine Fugue. Quand Marie Ouzeau étudiait à l'université, dans sa Belgique natale, elle se préparait pour une carrière en enseignement. Des décennies plus tard, elle aime toujours rencontrer des élèves, dans sa capacité d'intervenante et de directrice générale de Gris Montréal. Marie Ouzeau a enseigné le français en Slovaquie, puis elle a travaillé brièvement à Toronto avant de s'établir au Québec en 1999. Elle a eu une rencontre fortuite avec un comptable qui siégeait sur le CA du tout jeune Gris. Motivée par l'idée de retourner dans les salles de classe, elle s'est alors impliquée au sein de l'organisme, d'abord à titre de bénévole, et deux ans plus tard, comme directrice générale. Elle a récemment marqué le 30e anniversaire de l'organisme et ses 20 ans à la direction. Le noyau du travail du Gris, c'est de démystifier l'homosexualité et la transidentité à travers les témoignages d'intervenants, intervenantes, bénévoles, qui se rendent dans des salles de classe, principalement dans les écoles secondaires, pour parler de leur vécu et répondre aux questions, parfois assez déstabilisantes, des élèves. Dans le cadre de sa formation, Marie a observé un témoignage dans une école pour jeunes adultes raccrocheurs. « Je me suis dit, je n'arriverai jamais à être aussi à l'aise que l'intervenant. » Pourtant, dès sa première intervention, elle y a pris goût. Les intervenantes et intervenants font une brève présentation biographique dans la salle de classe et laissent ensuite libre cours à la curiosité des élèves qui interviennent pour poser des questions. Je leur raconte mon parcours, un peu comme j'ai fait ici, que je suis belge d'origine, venu au Québec par amour, puis que mon ex et moi avons vécu 8-9 ans ensemble, relate Marie Ouzeau en entrevue. Je leur dis que je suis en relation avec Camille depuis 6 ans, qu'on vit en alternance avec son fils. Je leur raconte aussi que le Gris, c'est l'endroit où je fais mon bénévolat, mais c'est aussi l'endroit où je travaille, parce qu'on leur donne un peu des indications sur notre parcours professionnel. Je leur parle du fait que j'avais 19 ans quand j'ai révélé à mes parents que j'étais lesbienne. Je leur parle de mes hobbies qui sont la voile et la lecture quand j'ai le temps. Puis je n'en dis pas plus. Comme ça, ils posent des questions après. Pour elle, raconter des parcours de vie ordinaires permet aux élèves de mettre des visages humains sur des réalités dont ils entendent parler en ligne ou en famille et de créer de l'empathie. Ce qui est intéressant avec le Gris, c'est que c'est vraiment universel, dans le sens où chaque vécu est valide. On raconte notre histoire. On répond aux questions des jeunes en fonction de notre parcours de vie. On n'a pas l'impression d'essayer de les convaincre de quelque chose, juste d'instaurer un dialogue, dit-elle. Des fois, c'est un peu effrayant, mais je pense que cette authenticité résonne beaucoup avec les adolescents. En janvier, Le GRI a présenté une étude qui faisait état du fait que les jeunes Québécois deviennent moins tolérants à la diversité sexuelle, pour la première fois depuis que des données du genre sont colligées. Entre 2017 et 2024, le niveau de malaise des jeunes face à l'homosexualité de leur meilleur ami a doublé, résume Gabrielle Richard, directrice de recherche du GRI Montréal à l'époque. Marie Ouzeau voit cette évolution sur le terrain, notamment à travers de plus en plus de questions chargées ou influencées par des rumeurs sur les réseaux sociaux. Plutôt que de nous poser des questions par rapport à notre parcours de vie, les élèves vont nous dire « Qu'est-ce que vous pensez des femmes trans dans le sport ?» À une certaine époque, on avait énormément de questions sur les furries et la litière dans les écoles. Dans les questionnaires anonymes remplis par les élèves, elle voit davantage de discours masculinistes, transphobes ou homophobes qu'auparavant. Elle pointe du doigt les réseaux sociaux et l'influence de certains courants politiques qui migrent de l'extrême droite jusqu'au mainstream. Ça m'inquiète qu'on soit encore à une époque où on se fait du capital politique sur le dos des minorités. Je trouve ça vraiment déplorable. Il y a un recul, un inconfort par rapport aux réalités qui touchent nos communautés. Mon souhait pour les 10 prochaines années, c'est que, collectivement, on prenne conscience de ça et que les mesures se prennent pour outiller nos jeunes à vivre dans une forme de compréhension de l'autre. Elle demeure motivée par les témoignages qu'elle entend, souvent des anciens élèves. Il y a cet élève pour qui une présentation a servi d'aspirateur à homophobie dans sa classe. Cet étudiant en psychiatrie pour qui une intervention du GRI a redonné l'espoir que c'était possible de vivre une vie gay et heureuse. Ces nouveaux bénévoles qui disent « Moi, j'ai eu la visite du GRI il y a 5 ans, 10 ans. Ça a changé mon parcours. J'ai envie de redonner. » Ça. C'est une source inépuisable de motivation. Info, pour en savoir plus sur le GRI Montréal, visitez le gri.ca. C'était Marie Ouzeau, Quand des récits changent des vies. Un texte de R. Pratka, paru le 17 juin 2025 dans le magazine Fugue.